Bonjour à toutes et à tous. Bonjour chers internautes. Bonjour l'EPI. C'est un immense plaisir de vous avoir ce dimanche, qui est notre dernier dimanche de l'année, dont nous allons profiter donc de ce merveilleux jour que le Seigneur nous a donné une fois de plus, pour surtout lui rendre grâce, parce qu'il nous a donné la vie, nous a protégés pendant toute cette année. Nous allons profiter de ce moment pour pouvoir contempler les bienfaits du Seigneur, tout ce qu'il nous a donné. Cette année, il nous a accompagnés dans des moments de difficulté, de tristesse. Il était là, Jésus était là avec nous. Et il nous a accompagnés pendant tout ce moment jusqu'à aujourd'hui. Donc, nous ne manquerons pas. Est-ce que nous pouvons nous lever un instant pour prier avant de commencer à célébrer le Seigneur? Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ce nouveau jour que tu nous as donné. Merci pour le souffle de vie. Nous sommes là pour te louer, pour te célébrer. Prends le contrôle de toutes choses. Prends tous ceux qui viennent dans ta présence pour te louer, tous ceux qui t'écoutent, qui vont te suivre. Et ô Seigneur, parle-nous aujourd'hui au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.
Nous t'invitons, Dieu.
Seigneur, que ton nom résonne en ce lieu. Nous sommes là pour te louer, Seigneur.
Que les murs tremblent au son de nos louanges.
émerveillés dans ta présence, nous voulons te louer. Nous voulons t'élever. Nous te rendons grâce. Nous te célébrons.
Ton nom, chantons. Alléluia, 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 Alléluia. Puissant est ton nom, puissant est ton nom, puissant est ton nom, oui, puissant est ton nom, puissant est ton nom, oui, glorieux est ton nom, glorieux est ton nom. Dieu fidèle, puissant est ton nom, tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses, toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom, tu fais de, oui Seigneur. Seigneur, tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses, toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom.
Est-ce que nous pouvons une fois de plus élever la voix pour rendre grâce au Seigneur, lui qui nous a donné la vie, qui nous a donné la santé, qui nous a accompagnés cette année. Il était là dans les moments de difficulté, quand on n'arrivait pas à tenir, quand on cherchait des solutions, il était là, il nous conduisait. Oh oui Seigneur, tu fais de grandes choses, tu fais de grandes choses Seigneur. Sois élevé. Acclamons une fois de plus notre Seigneur. Il est merveilleux. Alléluia, 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 Alléluia. Et puissant est ton nom. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, et puissant est, Alléluia, 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 et puissant est ton nom, Alléluia, 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 puissant est ton nom, puissant est ton nom, puissant est ton nom, puissant est ton nom, oui glorieux est ton nom, oui glorieux est ton nom, oui glorieux est ton nom, glorieux est ton nom, chantons. Dieu fidèle, puissant est ton nom.
fait de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom.
Est-ce qu'on pourrait, d'un commun accord ce matin, applaudir Dieu? C'est tout à fait possible de l'applaudir. Hein, la Bible dit « Acclamez Dieu, gens du monde entier ». Donc oui, on peut l'applaudir, on peut l'acclamer. Il est grand, sa grandeur est là. On peut vraiment l'applaudir ce matin. Et j'aimerais inviter l'Église à un temps de prière collective, un temps de louange où toute l'Église, tout le cœur de l'Église, toutes les voix de l'Église peuvent s'élever. Et dites à Dieu sa grandeur ce matin. Souvenez-vous de ce qu'il a fait pour vous. Souvenez-vous dans cette année ce qu'il a fait pour vous. Et commençons à faire monter nos prières collectives à Dieu ensemble. Une église qui prie à haute voix ce matin pour célébrer Jésus. Est-ce qu'on est d'accord avec ça, église? Alors commence à prier à ta place ce matin. Élève ta voix. Dis à Dieu sa grandeur. Seigneur, je te remercie pour ta fidélité ce matin. Vous qui êtes à la maison aussi, vous qui êtes en voiture peut-être, gardez les yeux ouverts, mais vous pouvez élever votre voix dans votre voiture et célébrer la grandeur de Dieu ce matin. Oui, Seigneur, tu es grand. Ta fidélité est sans limite, Seigneur Jésus. Ce matin, je célèbre une seule personne, la personne de Jésus-Christ. Ce matin, je veux te remercier, Seigneur, parce que tu as été là. Tu as été là quand c'était difficile dans cette année. Tu as été là quand j'étais dans la joie. Tu as été fidèle, Seigneur. Tu as consolé, Seigneur. Tu as relevé, Seigneur. Tu as restauré, Seigneur. Oui, ce matin, l'Église de l'Épi veut te dire à toi toute la gloire. À toi toute la louange, à toi toute l'adoration. Nous ne voulons adorer qu'une seule personne, c'est Jésus-Christ ce matin. Nous voulons donner toute la gloire qu'à une seule personne, celui qui est mort à la croix pour nous, celui qui est ressuscité, celui qui règne, celui qui est assis sur le trône de la grâce. C'est celui que nous adorons ce matin, Jésus notre Sauveur, Jésus notre Seigneur, Jésus le Roi des Rois, Jésus l'Étoile du Matin, Jésus le Prince de Paix, Jésus celui qui est le Roi Serviteur, le Roi Sauveur, celui qui a envoyé chacun d'entre nous dans ce monde et qui a dit « Soyez une lumière, Seigneur !» Nous voulons te remercier pour cela. À toi toute la gloire ce matin, parce que tu es vivant, parce que tu règnes, parce que tu es fidèle. Et nous voulons vraiment te célébrer ce matin. À toi toute la gloire, Seigneur Jésus. Toute la gloire t'appartienne. Peut-être qu'on pourrait prendre juste ce couplet qui dit « Quand mon Sauveur ?»
Éclatant de lumière se lèvera
de son trône. Son divin séjour, je le redirai ensemble.
Je redirai dans son divin séjour que tu es grand.
Ô Dieu d'amour,
ô Dieu d'amour,
je redirai dans son divin séjour.
Je
acclamons une dernière fois ce Dieu d'amour, ce Dieu plein de bonté, riche en miséricorde, lent à la colère, riche en compassion. Voici notre Dieu ce matin. Nous te donnons toute la gloire ce matin, Seigneur, pour ce dernier dimanche de l'année. Tu règnes encore. Tu as régné le dernier dimanche de l'année dernière et tu règnes encore aujourd'hui. Tu es le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Avant de vous asseoir, On voudrait peut-être saluer des personnes qui sont en visite sur Strasbourg ce matin, des personnes qu'on voudrait bénir. La Bible dit « Accueillez-vous les uns les autres ». On voudrait vivre ce temps-là ensemble. Est-ce qu'il y a quelqu'un en visite ? Alors, il y a ma famille qui va devoir lever la main, il y a le monsieur là-bas. Vous pouvez lever votre main un instant. Église de l'Épi, est-ce qu'on peut leur souhaiter la bienvenue, les applaudir, les bénir dans le nom du Seigneur ce matin ? Soyez bénis au milieu de nous. Vraiment, on est heureux de vous accueillir. Vous pouvez prendre place. Vous pouvez prendre place ce matin. Très heureux de pouvoir être réunis ensemble ce matin. On est reconnaissant aussi pour toutes les personnes qui sont au service à chaque dimanche. 52 dimanches dans l'année, des hommes, des femmes, des jeunes et des moins jeunes ont à cœur de servir leur prochain. Et ils le font aussi au travers de l'église. Ils le font en vous accueillant dans un lieu, ils le nettoient dans la semaine. Ils le font en vous accueillant au parking alors qu'il fait froid. Ils le font en préparant un petit café pour vous réchauffer. Ils le font en priant avant cette célébration. Il y a des hommes et des femmes qui prient pour vous, que ce temps soit pas juste un temps de rencontre comme cela, mais que ce soit un temps où nous soyons en communion avec le Saint-Esprit. Un temps où on peut être interpellé par le message de l'Évangile. Il y a aussi les traducteurs qui sont là et qui nous permettent de continuer à poursuivre cette vision, cette mission d'être une église internationale. Est-ce qu'on peut remercier les traducteurs parce qu'ils font un travail vraiment incroyable? Traducteurs et traductrices, mais ce matin c'est des traducteurs. Voilà, on vous bénit. Surtout que, voilà, pas moi, hein, mais les autres pasteurs, ils parlent tellement vite que, voilà, donc j'essaye de leur dire, arrêtez de parler vite, les gars. Je dis, prenez exemple sur moi, je parle tellement lentement, donc non, on sait que le lundi matin, ils sont en jeûne et prière pour demander au Seigneur de nous calmer un petit peu. Voilà, non, on vous bénit vraiment, on est très heureux. Je voudrais aussi prendre un temps, on est en fin d'année comme cela, mais je voudrais vraiment remercier aussi toutes les personnes qui se sont engagées auprès des enfants, des mineurs, des adolescents. Est-ce qu'ils se reconnaîtront ? Est-ce qu'on peut juste les remercier aussi ce matin, s'il vous plaît ? Ils font un travail incroyable. Chaque dimanche, en moyenne, 120 mineurs sont bénis par des programmes, par des rencontres ici dans ce lieu, cette rue des Frères Hébert. 120 enfants qu'on veut bénir, ados, jeunes qu'on veut bénir, et c'est vraiment, vraiment une grâce. Je voudrais aussi honorer avec vous ce matin et remercier une équipe de l'ombre qu'on voit pas tout le temps, mais qui sont là, que ce soit le dimanche ou que ce soit le samedi, ou même des fois qu'on a des événements, ils se mobilisent, c'est l'équipe de ménage. Est-ce qu'on pourrait pas les remercier? Ils se reconnaîtront ce matin. Ils font un travail incroyable. Vraiment, merci à vous. Merci à vous. La vie de l'église, c'est aussi des personnes qui, toutes les deux semaines, tous les jeudis, toutes les deux semaines, servent des colis alimentaires, des tonnes de nourriture sont distribuées à chaque jeudi, tous les 15 jours. Et il y a aussi Investi Boutique, Investir Solidaire pour des personnes qui auraient besoin de peut-être trouver de quoi s'habiller de manière décente pour leur bien-être aussi. Ce sont des bénévoles qui, à chaque jeudi, lors de la distribution, sont là, sont présents. Tous celles et ceux aussi qui font un effort de fou pour permettre à des ados, des jeunes d'aller dans des camps, d'être bénis. Alors tous ces bénévoles d'Enjeu, notre association culturelle, se reconnaîtront. Mais une dernière fois, Église, est-ce qu'on peut juste les remercier ce matin, leur dire merci pour cela? Ils n'aiment pas trop qu'on les affiche, c'est pour ça que je les fais pas lever et tout ça, parce que souvent ils sont un peu gênés comme ça. Alors c'est juste vraiment qu'ils puissent entendre que l'Église est reconnaissante pour toutes ces familles qui sont bénies à chaque semaine. Et vraiment un grand merci. Un grand merci à vous. C'est ça la vie de l'Église. J'ai pas d'autre mot que de dire des hommes et des femmes qui aiment Dieu et qui aiment leur prochain et qui vont à leur service, qui vont à leur rencontre, que ce soit ici quand on est Église ou que ce soit quand on est dispersé dans nos activités ou autres. Alors un grand merci à vous pour cela. On clôture cette année, mais l'année 2025, si Jésus ne revient pas, on continue et on veut continuer à annoncer l'amour de Dieu. On veut continuer à ce que des disciples soient édifiés dans leur foi, que des foyers soient solidifiés dans leur foi. C'est pourquoi on a différents événements et on va démarrer l'année dans la prière avec une semaine universelle de prière où nous allons nous réjouir et prier avec des dizaines d'autres églises de la communauté urbaine de Strasbourg, c'est plus comme ça qu'on l'appelle, de l'Eurométropole de Strasbourg. Voilà, donc c'est soutenu par le CNEF, le Conseil National des évangéliques de France, qui rassemble et qui fédère plus de 70% des évangéliques en France aujourd'hui. Et nous aurons une semaine consacrée à la prière pour l'année. Et donc on est conviés, nous aussi, Église de l'Épi, à pouvoir participer à cette semaine de prière. Ça démarrera le 12 janvier jusqu'au 19 janvier. Vous aurez plus d'informations qui vont arriver au fur et à mesure pour savoir dans quel bâtiment d'église ça aura lieu, quand ça aura lieu. Nous accueillons la dynamique de prière au niveau de la ville le mardi 14 janvier ici à l'Épi à 20h. Je vous convie à une mobilisation générale de prière. Que l'église de l'Épi puisse vraiment marquer dans son agenda ce temps de prière où nous allons accueillir d'autres frères et sœurs de l'Eurométropole pour prier ensemble pour l'année, pour être une bénédiction pour nous. C'est le mardi 14 janvier, rendez-vous à 20h, donc venez un petit peu plus tôt. Marquez ça dans vos agendas, que vous puissiez être là et qu'on puisse vraiment accueillir et bénir l'église globale, l'église universelle de Strasbourg. On a aussi le souhait de pouvoir bâtir cette année, en tout cas en début d'année, sur la notion des relations. Et nous allons avoir une soirée dînatoire où célibataires, couples sont conviés pour un temps de soirée dînatoire sur le thème de la question « Pourquoi ?» le couple. Donc ça aura lieu le vendredi 31 janvier 2025 à 19h30. Vous aurez un couple intervenant qui sera là, qui est compétent, qui nous bénit depuis plusieurs mois maintenant ici à l'EPI sur ce type de thématique, et on se posera ensemble des questions. Donc je précise, on se pose une question sur le couple, c'est pas réservé au couple, c'est vraiment ouvert à toutes celles et ceux qui s'interrogent sur la notion du couple, que l'on soit célibataire ou en couple, depuis peu de temps, qu'on soit marié depuis quelques années. Il peut arriver qu'on s'interroge à nouveau sur le sens du couple, pourquoi se mettre en couple, qu'est-ce que cela peut apporter d'être en couple, quelle est la vision de Dieu pour le couple. Et cette soirée propose de répondre à ces questions en les abordant sous plusieurs angles, l'angle biblique, l'angle psychologique, l'angle pratique. Donc on est très heureux d'avoir ce temps de soirée dînatoire. Donc les inscriptions se font en ligne. Vous avez des affiches qui sont sur les poteaux là avec le QR code. Vous pouvez vous rendre sur notre site internet qui sera préparé pour l'occasion. Vous vous inscrivez en ligne. Les places, y a de la place, mais ça restera limité. Vu l'espace d'où on sera. Donc inscrivez-vous le plus rapidement possible. Célibataire, personne en couple. Voilà, que vous puissiez vraiment être béni par ce temps-là. Voilà notre mois de janvier qui va démarrer sur la prière, qui va démarrer sur les relations, pour qu'on puisse être une église qui continue à aspirer à ce que Jésus fasse d'elle une église en bonne santé. Hein, on a le droit de croire en ça pour 2025, que Dieu continue son œuvre pour qu'on soit une église en bonne santé relationnelle, spirituelle, prophétique aussi, que Dieu nous accompagne. En tout cas, soyez toutes et tous encore une fois bénis. Tout le conseil d'église se joint à moi pour vous remercier. Je finis ici mon temps avec vous avant de laisser la place à Anne. Je voudrais, et au nom du conseil d'église, vous remercier pour votre fidélité, que ce soit dans les services, que ce soit dans la prière. C'est toujours tellement encourageant quand des personnes viennent nous voir et nous disent « on prie pour vous, on prie pour le projet, on reste, notre projet immobilier, on prie pour les différents services, on prie vraiment pour vous, merci pour vos prières, merci aussi pour votre fidélité dans les finances, dans les dons et talents que Dieu vous a donnés. Vraiment, on est honoré, on est béni d'être à votre service, et c'est pas juste une formule, je vous le dis vraiment, cette année 2024, ça a été une année de défis, mais on voudrait au nom du conseil d'église vraiment vous remercier, et je pense que Dieu ne sera pas contre que vous puissiez vous remercier, vous église, en vous applaudissant et en donnant toute la gloire à Dieu. Est-ce que vous pouvez applaudir l'église pour vraiment cette fidélité-là? On va laisser la place à Anne qui va nous conduire, je vais le faire pour toi. Voilà, et puis que Dieu la bénisse ce matin.
Bonjour. Bonjour, ça fait plaisir de vous voir. Je ne vous vois pas bien, mais ça fait plaisir quand même. Je vous verrai mieux tout à l'heure. Ok, j'ai juste une petite question. Alors, je ne l'ai pas mis en direct avec le téléphone, mais est-ce que comme ça, là, à voix haute et bien forte, dites-moi combien de temps vous aimeriez vivre, combien d'années? Ouf, oula. 80? Ok. Jacques Dion, il s'est dépassé, je crois. Ok, il y a le 20 décembre, on a fêté les 91 ans de mon grand-père, et il nous avait dit, je veux vivre jusqu'à 120 ans. Je veux pas mal. Mon père, il nous avait dit à un moment donné aussi, je veux vivre jusqu'à 140 ans pour vieillir avec mes enfants. C'est mignon. Ok, je sais pas si vous vous la posez souvent, cette question de combien de temps je vais vivre, combien de temps je ne vais pas vivre. Il y a 3 mois de ça, je me suis retrouvée dans un aéroport, et quand je suis dans un aéroport, normalement, quand j'attends, je prends toujours un livre. Salle d'attente des médecins, aéroport, prenez un livre. Les enfants prenaient des jouets, des livres aussi, des bandes dessinées. Et là, je lisais donc le livre d'Alfred Kuhn, qui, le titre était « Le sens de la vie ». Je lis, et puis je me pose, je lève mes yeux, et en face de moi se trouve un homme qui lisait aussi un livre, et le livre, lui, c'était « Un sens à la vie » de Pascal Chabot. Et là, je me dis, oh, commence la réflexion. Quel est le bon titre ? Quelle est la bonne formulation ? Et quelles sont les bonnes questions à se poser ? Et j'en suis arrivée à me demander, mais en fait, Anne, cherches-tu un sens à la vie ou le sens de la vie ? Et c'est le titre du message ce matin. Cherches-tu un sens à la vie ou le sens de la vie ? Alors on l'a dit, on l'a répété, on est le dernier dimanche du mois de décembre, mais le dernier dimanche de l'année 2024. On se retrouve là, entre deux. Bientôt 2025 arrive. Et peut-être que certains, ça y est, ils ont déjà préparé leur objectif, leur planning de l'année 2025. Tout est prêt, on est taqué, on attend juste le go, go, go. Il y en a peut-être, ils ont fait des résolutions. Vous savez, les résolutions de faire du sport et tout ça, ça dure une demi-minute et puis après, ça ne tient pas. Mais là, ce matin, vraiment, je voudrais vous demander, je sais que vous n'allez pas répondre, mais peut-être dans votre cœur répondre, comment va ta vie ? Comment va ta vie ? Quel sens lui donnes-tu ? Est-ce que tu y as réfléchi ? Est-ce que tu y as pensé ? Peut-être qu'on n'a pas envie d'y penser parce que c'est l'angoisse totale de réfléchir à demain. Ou peut-être tout simplement on n'y pense pas parce que ben, on est dans la routine métro, boulot, dodo, et puis on avance, et puis des fois on fait les choses machinalement et on y va. Et c'est en lisant l'Ecclésiaste que ben, tout m'a paru clair. Alors je ne m'étalerai pas sur l'auteur. Je pars du principe que vraiment tout ce qui est dans la Bible est inspiré de Dieu, donc est utile pour enseigner. Et Alphonse Maillot, un pasteur de l'Église réformée de France, a dit, son livre, en parlant de l'Ecclésiaste, n'est pas du petit lait, mais souvent du vitriol. Il décape furieusement. Et de sa lecture, on ne sort pas indemne, il s'en faut. Mais on en sort adulte ou prêt à le devenir. Et mon souhait vraiment ce matin, c'est qu'on puisse grandir en maturité et vivre une vie épanouie. Alors, on va survoler l'Ecclésiaste. Très intéressant, je vous encourage vraiment à le lire. On va le survoler pour qu'il nous guide justement dans cette quête. Et ce livre commence par dresser un constat de la vie humaine, de l'existence humaine. Il poursuit par en affirmant que tout ce que nous avons nous vient de Dieu. Et puis il s'achève en dévoilant le véritable sens de la vie. Un sens unique, authentique et éternel. Alors ce constat, le constat de l'existence humaine. Dans le livre de l'Ecclésiaste, l'auteur se présente comme le chef de l'assemblée et commence par partager sa quête. On lit Ecclésiaste 1, 12 à 14. « Moi, le chef de l'assemblée, je suis devenu roi d'Israël à Jérusalem et j'ai pris à cœur d'étudier tout ce qui se passe ici-bas. J'ai appliqué toute ma pensée à l'explorer par une observation méthodique. C'est une tâche ingrate que Dieu impose aux hommes pour qu'ils soient absorbés par elle. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil. Je suis arrivée à la conclusion que tout est pour rien, autant courir après le vent. Il y a 30 siècles, cet homme a pris le temps d'expérimenter, d'observer et d'analyser la vie, le but, afin de répondre à une question essentielle, quel est le sens de l'existence, de la vie ? Et là, dans le livre de l'Ecclésiaste, il partage avec nous les résultats, ses observations, des expériences qu'il a faites durant toute sa vie. Et on va prendre un temps à explorer ces constats. L'auteur commence par une réflexion sur la nature cyclique de l'histoire, Ecclésiaste 1:9. Ce qui a été, sera encore, et qui s'est fait, se refera encore. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce constat révèle un refrain répétitif de la vie humaine. Je ne sais pas si vous connaissez la chanson. C'est la même chanson. Bon, après, il dit, mais la différence, c'est que tu ne m'écoutes pas. J'espère que vous écoutez ce matin. Les générations passent, les événements se répètent, le cycle de la vie reste immuable. Nous naissons, nous accomplissons diverses choses et puis nous mourons. Et entre ces deux extrémités, rien de vraiment nouveau sous le soleil. Allez, on va prendre un exemple moderne. L'intelligence artificielle. Bien qu'elle semble être une innovation révolutionnaire, elle s'inscrit dans une continuité historique. Depuis l'invention de la roue, L'homme a cherché à concevoir des outils pour résoudre des problèmes et faciliter la vie. L'intelligence artificielle n'est qu'une étape de ce cycle perpétuel d'amélioration de la technologie. Un autre exemple un peu plus simple. Bon, vous savez que je suis originaire du Sud, et à Marseille, ils ont mis le tramway. Ça fait quelques petites années, là. Et donc, pour les jeunes générations, ils se disent « Waouh, ils ont mis le tramway et tout !» En fait, les anciens disent « Il était déjà il y a longtemps. » C'est juste qu'à Marseille, ils l'ont enlevé, ils l'ont remis. Faire et défaire. Voilà ce qu'on sait très bien faire. L'humanité continue de chercher, de découvrir et d'inventer, mais aucun progrès matériel ou technologique ne comble véritablement le vide intérieur ou apporte une réponse au sens de la vie. Alors il continue, l'auteur partage ensuite une expérience personnelle dans la recherche du bonheur. Cette semaine, on m'a fait lire une pensée. Le bonheur, c'est faire ce que l'on veut et vouloir ce que l'on fait. Ok, mais l'Ecclésiaste dit autre chose. Dans Ecclésiaste 2.1, je me suis dit, va donc, laisse-toi tenter par le plaisir, jouis de la vie et donne-toi du bon temps. C'est cela, le bonheur. Et dans les versets suivants, il détaille un peu tout ce qu'il a fait. Il s'est adonné au plaisir, au vin, à la folie. Il s'est privé de rien. Il a amassé des richesses, possédé des vastes domaines. Il avait tout. Profité de plaisir de la vie. Il a même vraiment invité des chanteurs, des danseurs, et la musique, la compagnie, les plaisirs aussi charnels. Pourtant, sa conclusion est sans appel. Tout cela est éphémère et vide de sens. Il compare cette quête à une course après le vent. Je ne sais pas si vous êtes amusé à courir après le vent. Je cours des fois après les feuilles qui s'envolent, mais après le vent, je ne suis pas encore arrivée. Aucune joie, aucune possession, ni aucun plaisir ne lui a apporté une satisfaction durable. Et continue encore, l'auteur poursuit en parlant de ses accomplissements. Ecclésiaste 2, 4 à 5. J'ai entrepris de grands travaux. Je me suis bâti des maisons, j'ai planté des vignes, je me suis aménagé des jardins et des parcs, de vrais paradis. Et j'y ai planté des arbres fruitiers de toute espèce. Dans un langage actuel, là, j'aurais envie de dire que le gars, il s'est mis bien. Il s'est mis à l'aise. Il a atteint tout ce que beaucoup, peut-être, rêvent d'avoir. Et pour que, peut-être, beaucoup courent après ce désir d'avoir un confort matériel, des projets ambitieux et une vie prospère. Pourtant, il déclare que même des accomplissements, ces accomplissements sont dérisoires. Je vais vous raconter une histoire, je ne sais pas si c'était une blague ou si c'était une histoire réelle. Hein. Mais un jour, un homme riche fait promettre à sa femme de l'enterrer avec tout son argent. Sa femme, elle lui obéit, elle dit « Ok, chérie, je te promets. » Sa femme, elle est astucieuse. Et elle glisse un chèque dans le cercueil. Ça fait rire. Mais en fait, cette image, elle est ironique. Elle souligne vraiment une réalité, c'est que les richesses matérielles ne nous suffisent pas au-delà de la mort. Et l'auteur nous rappelle que tout ce que nous amassons dans cette vie finit par ne servir à rien. Ce qui semble être des succès ici-bas n'a aucune portée éternelle. Beaucoup donnent un sens à leur vie en vivant pour leurs enfants, en vivant pour leur famille. Et là, l'Ecclésiaste nous invite à réfléchir, mais qui peut garantir que nous verrons grandir nos enfants ? Pour l'avoir vécu dans ma famille, mort subite du nourrisson, et puis j'ai perdu un cousin à l'âge de 15 ans d'une tumeur au cerveau, qui peut nous dire ? Ou même si nous, on part en premier. Et même s'ils atteignent l'âge adulte, de se dire, est-ce qu'ils suivront les valeurs que nous leur avons transmises ? Et ces interrogations ne cherchent pas à nous décourager, à nous accabler, mais à nous rappeler que fonder notre vie uniquement sur des objectifs terrestres, aussi nobles soient-ils, reste limité et fragile. Une course après le vent. L'auteur de l'Ecclésiaste résume ses constats avec une phrase clé qui répète souvent « Vanité des vanités, tout est vanité et poursuite du vent ». Il observe vraiment bien, souvent, nos efforts sont motivés par la rivalité, Nous voulons la plus belle maison. Nous voulons la plus grosse voiture. Nous voulons une place élevée, être le chef, parfois en écrasant les autres. Pourtant, tout cela est futile. Nos objectifs, réussir, voyager, même si les voyages forment la jeunesse, fonder une famille, sont souvent confondus avec le sens de la vie. Et l'auteur distingue en fait entre but de la vie qui est temporaire, limité, et le sens de la vie qui transcende le temps et la mortalité. Il utilise souvent l'expression 24 fois dans ce livre, « sous le soleil ». Bon, aujourd'hui, il n'est pas trop sorti, mais il est là quand même. Et ça indique que sa quête du sens est limitée à ce qui est terrestre. Sa conclusion, c'est que le véritable sens de la vie ne se trouve pas en nous-mêmes, ni dans ce que nous accomplissons ici-bas. Ça va, vous êtes encore là ? Heureusement que vous n'êtes pas partie, moi je serais partie en courant. Non mais sinon, Anne, franchement la louange elle était bien, on a passé des fêtes et tout, et toi là tu nous plombes le moral. Non, je ne vous plombe pas le moral, juste je fais un constat de ce qu'il a dit. C'est pas moi, c'est lui. Rick Warren dira dans son livre Une vie motivée par l'essentiel, ce n'est pas en nous centrant sur nous-mêmes que nous découvrirons le véritable sens de notre existence. Et là on arrive à la suite, tout vient de Dieu. Il y a une certitude, c'est que l'auteur de l'Ecclésiaste, il n'est pas athée, il est croyant, il croit en Dieu, il l'affirme. Et justement, tout ce qu'il a testé, il l'a testé sans Dieu. Et il arrive à cette conclusion, que tout n'est que vanité. Il affirme sa foi en Dieu, le créateur de toutes choses, et révèle la raison de notre existence sur terre. Ecclésiaste 7, 29 dit « Voici la seule chose que j'ai trouvée. Dieu a fait les hommes droits, mais ce sont eux qui ont cherché beaucoup de complications. » Ça va ? Ce verset, il souligne une vérité fondamentale. Pour découvrir le sens de notre vie, nous ne devons pas partir de nous-mêmes. Et trop souvent, nos réflexions, c'est « Bon, ok, qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Quel objectif me fixer pour être heureux ? Épanoui ?» Là, l'Ecclésiaste nous rappelle que tout commence de Dieu. Tout commence par Dieu. Et les premiers versets de la Bible disent au commencement, merci, au commencement, Dieu. Il était là. Il est l'alpha, l'oméga, le début, la fin. Il est illimité, infini. Nous avons été créés par Dieu et pour Dieu. Et si nous négligeons cette vérité, ben notre existence, elle perd tout son sens. Imaginez-vous, je souris parce que vous avez certainement eu à Noël des cadeaux, certains vous ne savez pas comment ça fonctionne. Et on a fait changer le portable de maman. Mais imaginez, vous avez un appareil, vous ne savez pas comment il fonctionne. Qu'est-ce que vous faites ? Soit on demande à une personne qui connaît, soit on demande à celui qui l'a créé, soit on regarde le mode d'emploi. Et en fait, j'ai envie de me dire, mais pour nous, pourquoi ne demandons-nous pas à Dieu notre Créateur ? Pourquoi ne nous adressons pas à Dieu vu qu'il nous a créés ? Dieu nous a créés. Il est essentiel de nous tourner vers lui pour comprendre le sens de notre vie. Nous avons souvent tendance à chercher des objectifs terrestres pour donner ce sens à notre existence. Et je l'ai dit tout à l'heure, une carrière, la famille, des voyages, des biens matériels. Mais tous ces buts, bien qu'importants, sont limités à notre temps ici-bas. Et ils ne comblent pas le vide profond qu'il y a dans nos cœurs. Et j'aime le dire, et je le répète souvent, Blaise Pascal a dit « Il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu que seul lui peut combler. Seul Dieu peut combler le vide dans ton cœur. » Vous savez, les enfants, quand ils sont tout petits, ils ont des étoiles à mettre dans les étoiles, les ronds avec les ronds, et des fois, ils essaient de mettre les étoiles dans les ronds et ça ne marche pas. Mais là, on essaie de combler avec d'autres choses que Dieu et ça ne marche pas non plus. Le grand dictionnaire de la Bible exprime cette idée avec force. Lorsque l'homme rejette Dieu, le point de référence absolu et infini, il ne croit pas en rien, mais il croit en autre chose. En d'autres termes, il est contraint de par sa nature même à fabriquer des idoles. Mais en agissant ainsi, il perd aussitôt la clé de l'énigme de la vie, car l'homme a besoin, pour se situer dans l'univers, d'un point de référence infini. Certes, il peut pendant un temps se fabriquer du sens à l'intérieur de son horizon limité, mais cela ne lui apporte ni sérénité ni paix durable. C'est la reconnaissance que Dieu est, qu'il est l'ultime réalité, l'absolu et l'univers, le point de référence infini. En d'autres termes, nous avons tous besoin de repères. Et Dieu est à la fois notre repère ultime et notre exemple parfait. Quelqu'un le disait, tout humain a besoin d'un père et d'un repère. Peut-être qu'on se pose souvent aussi cette question, mais pourquoi Dieu m'a-t-il créé ? Au final, j'ai rien demandé, moi. La Bible nous dit que Dieu est amour. Et dans son amour infini, il a choisi de nous créer pour partager son amour avec nous. Même si cette vérité peut sembler abstraite, vraiment, je vous invite à lire la Bible, la parole de Dieu, qui dévoile tout l'amour de Dieu. Tout cet amour qu'il a envers nous. Et pour certains qui sont lecteurs peut-être depuis des années, relisez encore. Parce que c'est vrai que parfois on dit, on sait de la tête, oui je sais, Dieu est amour, mais on ne le vit pas. On ne le vit pas avec notre cœur. Et laissons-nous transformer par ces paroles. Le psaume 139 illustre magnifiquement bien cette idée. Le psaume 139, versets 14 à 15. « Mon corps n'avait pas de secret pour toi, quand tu me façonnais en cachette et me tissais dans le ventre de ma mère. Quand j'y étais encore informe, tu me voyais. Dans ton livre, tu avais déjà noté toutes les journées que tu prévoyais pour moi, sans qu'aucune d'elles ait pourtant commencé. » Les hommes, vous ne pouvez pas comprendre. Vous n'avez jamais été enceinte et vous ne le saurez jamais. Ok, faites le deuil maintenant. De ne pas être enceinte. Ah, ça va, tu gères, oui, ok. Mais sincèrement, alors je ne l'ai pas encore vécu, j'espère un jour, même si c'est pas tous les jours la joie apparemment, je me dis, Seigneur, c'est quand même incroyable. Dans le ventre d'une femme se tisse un corps, des os, ouais, des organes. Oh, si c'est ça, c'est pas du miraculeux, je ne sais pas ce que c'est. C'est vraiment, c'est énorme, c'est juste merveilleux. Et l'Ecclésiaste affirme que c'est Dieu qui donne la vie et fait battre nos cœurs. Aucun de nous n'a le contrôle des battements de nos cœurs. C'est juste énorme. Ce matin, j'étais allongée avant de me lever et je sentais boum, 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 boum. Et je me dis, waouh, Seigneur, tu fais battre mon cœur. Savoir que c'est Dieu qui nous a voulu et choisi donne un sens profond à la vie. Et de plus, se sentir qu'on est aimé. On est aimé. Ça, c'est une force inégale. Et on le sait que chaque être humain a besoin d'aimer et a besoin d'être aimé aussi. Alors rappelons-nous de nous aimer pendant que nous sommes vivants. L'auteur de l'Ecclésiaste avait compris que sans Dieu, tout est vain. Même nos plaisirs. Nos réussites, nos efforts pour rendre la vie un peu plus supportable ne suffisent pas. Et comme il le dit dans Ecclésiaste 3:13, car si nous pouvons manger et boire et jouir des fruits de notre travail, c'est à Dieu que nous le devons. C'est un cadeau de sa part. Alors certains ont été gâtés à Noël, mais nous sommes gâtés tous les jours par notre Père Céleste, par notre Créateur. Chaque jour, il nous fait le cadeau de la vie. Chaque jour, ses bontés, ses grâces sont renouvelées pour nos vies. Et ces cadeaux-là, on a tendance à les oublier. Mon papa préparait le petit déjeuner tous les matins à ma maman. Et puis après, c'est une habitude des fois. Et une fois, je lui ai dit, papa, arrête, parce qu'elle s'est trop habituée. Et on ne voit plus l'importance, la valeur. Mais chaque matin, je vous assure, chaque instant, Dieu fait des miracles dans votre vie. Dieu vous fait des cadeaux. C'est Noël tous les jours avec Dieu. Dieu a un plan pour chacun de nous. Un plan, bien sûr, qui tient compte de nos erreurs, de nos mauvais choix, et même parfois de nos temps où on est têtu. Viens, suis-moi. Non, je vais aller là-bas. Et dès l'origine, on avait été créé pour être en harmonie avec lui dans un monde parfait. Mais en choisissant de désobéir, nous avons perdu ce lien, ce repère essentiel. Mais ce qui est formidable avec Dieu dans son immense amour, c'est qu'il a tout fait pour établir cette connexion. Il a donné son fils unique, son premier-né, son meilleur cadeau. Il a offert son bien le plus précieux pour payer le prix de notre faute, pour réparer cette connexion qui a été détériorée, pour qu'on puisse retrouver le sens de la vie. Et aujourd'hui encore, cette relation est possible d'être restaurée avec Dieu. Qu'on soit nouveau chrétien, qu'on ne soit pas croyant, il est possible de renouer avec Dieu. Et pour illustrer ça, j'ai une petite histoire. Il y a une jeune dame qui est allée chez le dentiste et il lui fait tout ce qu'il faut et tout. Et puis il lui dit, bah, ça y est, c'est bon, tout est clean, tout est bon. Ah, elle dit, gloire à Dieu. Et le dentiste lui dit, comment ça, Dieu ? Avec tout ce qui se passe, les guerres, enfin tout ce qu'on entend, vous pensez, vous croyez en Dieu ? Elle dit, ben oui, mais je crois au dentiste aussi. Et il dit, oui, d'accord. Et elle lui dit, ben, pourquoi il y a encore autant de personnes qui ont des caries, qui ont des problèmes de bouche, de rage de dents ? Et le dentiste, il dit, ben, c'est pas ma faute. S'ils ne viennent pas me voir pour que je les répare, pour que je fasse ce qu'il faut, ben, c'est la même chose avec Dieu. Si on ne s'approche pas de lui, si on n'ouvre pas la porte de nos cœurs, il ne va pas s'imposer. C'est un gentleman. Et je pourrais vous donner plein d'expériences, vous raconter plein d'histoires. Mais tant que vous n'avez pas fait l'expérience, mes paroles s'envoleront. Et que, encore, qu'on soit croyant ou pas, depuis longtemps ou pas, des fois on ferme la porte à Dieu, dans certaines situations, dans certains de nos choix. Mais qu'on puisse ouvrir la porte à Dieu pour vraiment restaurer cette relation avec lui et trouver le sens de la vie. Dieu nous attend avec les bras ouverts, toujours. Et on arrive enfin, le sens de la vie a une portée éternelle. Ecclésiaste 3, 11. Toutes les choses que Dieu a faites sont belles et bonnes en leur temps. C'est-à-dire celui qu'il a décidé pour elles. Il a même implanté au très fond de l'être humain le sens de l'éternité. Et il a donné à l'homme le désir de connaître l'avenir. Et pourtant, l'homme est incapable de saisir dans son ensemble le dessein que Dieu poursuit du commencement à la fin. Ce passage souligne une vérité fondamentale. Tout ce que Dieu fait a un sens et a une beauté particulière. Bon, excusez-moi, je me fais plaisir 2 minutes. Dieu m'a bien créé. Vous pouvez vous le dire, Dieu vous a bien créé. Vous êtes une beauté de Dieu, de toute beauté. Et Dieu a également implanté dans notre cœur la conscience de l'éternité, une aspiration de ce qui dépasse le quotidien. Et ce qu'il a implanté dans nos cœurs nous pousse à aller chercher à comprendre le sens de la vie, le sens de notre existence, et explorer ce qui se trouve au-delà des limites de la vie terrestre. Je pense qu'au moins une fois dans votre vie, vous êtes posé la question de se dire, mais quel est le sens de ma vie ? Ou peut-être, qu'est-ce qui se passe après la mort ? Ces interrogations, elles révèlent un écho de l'éternité dans nos cœurs. Une conscience que notre vie matérielle n'est pas tout ce qu'il y a. Et on le voit que même dans les personnes qui nous entourent, dans le monde, il y a cette quête, cette recherche de sens. Elle est omniprésente. Certains le cherchent des réponses dans la philosophie, d'autres dans la spiritualité, la méditation, ou encore d'autres reviennent à des choses un peu plus simples, en harmonie avec la nature. Cependant, la Bible nous enseigne que cette aspiration à l'éternité n'est pleinement satisfaite en Dieu. C'est en reconnaissant que tout nous provient de lui. C'est en nous attachant à lui, à Dieu, que nous trouvons un sens véritable à la vie. En lui, nous découvrons une double promesse, une vie riche de paix et de joie, ici-bas, et une espérance pour l'éternité. Je me pose parce que quand je préparais la prédication, je me disais quand même un truc de fou quand même. Parler de l'éternité. Moi, ça me coupe le souffle. Hein. Vivre éternellement. C'est tellement parfois pas ancré. Quand on parle et qu'on vous partage la parole de Dieu et qu'on vous conseille de suivre la parole de Dieu, d'obéir à Dieu, c'est pas une contrainte. Mais c'est une source de bénédiction. Et le seul exemple que je pourrais donner, c'est vraiment que quand on est parent, moi je sais que je veux le meilleur pour mon neveu, ma nièce, je veux le meilleur même pour ma sœur, je veux le meilleur pour ma famille, et on ferait tout pour, justement. Mais là, Dieu aussi, pareil, veut le meilleur pour nous. C'est pour ça qu'il nous donne des conseils, c'est pour ça qu'il... Une vie tournée uniquement vers le plaisir immédiat ou le rejet de ce que Dieu nous demande, ce que Dieu nous apporte, ne peut pas apporter un bonheur durable, ni un espoir dans l'éternité. C'est important de comprendre que le bonheur pour Dieu, c'est de voir ses enfants heureux. Ça ne veut pas dire d'avoir tout ce qu'on désire, mais c'est d'avoir tout ce dont on a besoin. Alors oui, je n'ai pas tout ce que je désire, mais peut-être tant mieux, mais j'ai tout ce dont j'ai besoin. Et ce dont nous avons besoin le plus souvent, c'est d'une paix intérieure, d'une sérénité dans le cœur, en toutes circonstances. Et les psaumes vraiment débordent de promesses montrant que faire confiance à Dieu nous rend heureux. Quand je crie vers toi, tu me réponds. Tu m'assures la paix et la joie que ce monde ne peut donner. Tu assures une paix, une joie que ce monde ne peut donner. Vivre avec Dieu, c'est un peu comme les trapézistes, ceux qui marchent sur des fils là, dans les cirques. Ils sont rassurés, ils sont sereins, parce que s'ils tombent, il y a le filet qui ramasse. Et en fait, cette assurance permet de traverser... Peut-être parfois le stress qu'ils ont, le doute qu'ils ont, mais avec Dieu, cette assurance aussi nous permet de traverser les épreuves de la vie avec confiance. Et ça donne du sens à la vie. L'Ecclésiaste termine par cette conclusion qui est vraiment claire. Ecclésiaste 12, 13 à 14. Révère Dieu et obéis à ses commandements, car c'est là l'essentiel pour tout homme. En effet, Dieu fera rendre compte de tout ce qui y est caché, que ce soit bon ou mauvais. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous possédons vient de Dieu. Et à un moment donné, il nous tiendra responsables de la manière dont nous avons utilisé les dons, les ressources, les opportunités, tout ce qu'il nous a confié. On est content d'avoir des cadeaux. Des fois, avec les enfants, ça ne dure pas longtemps. C'est faux. Alors d'autres, ça tient bien. Cette responsabilité, elle ne doit pas nous faire peur. Parce qu'il y en a plein de responsabilités. Je crois que c'est Sarah qui s'était fait baptiser il y a quelques années qui disait « En fait, moi, je trouve que la vie d'adulte, c'est une arnaque. » Ouais, parce qu'il y a un peu plus de responsabilités, j'avoue. C'est vrai que des fois, j'aimerais bien retourner chez papa, maman, être tranquille. Mais là, cette responsabilité-là que Dieu nous donne de gérer ce qu'il nous offre ne doit pas nous faire peur. Parce que Dieu est un père aimant. Alors, peut-être qu'il y en a qui n'ont pas eu de papa aimant, mais Dieu est la personne la plus aimante, elle est plus aimante que la personne que tu as connue dans ta vie. Celle qui te veut le plus de bien, qui désire ton bonheur. Et il nous donne sa parole comme un GPS pour nous aider à réussir. Il nous donne l'action de son esprit pour nous guider aussi, nous inspirer. Et il nous donne aussi des talents uniques pour développer, à développer. Et justement, Il y a une parabole, la parabole des talents dans Matthieu, et Jésus enseigne que Dieu attend de nous une gestion fidèle de ce qu'il nous a confié. Jérôme en avait parlé, et je vous invite vraiment à revoir cette prédication, comment amener notre argent au ciel, elle était juste géniale. Et chaque talent que nous utilisons pour faire le bien nous prépare à recevoir davantage dans l'éternité. Le maître de la parabole dit à son serviteur fidèle, c'est bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle dans peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire ? Cela nous enseigne que la manière dont nous gérons nos dons ici-bas a des répercussions dans l'éternité. Non, parce que sinon, si vivre sur terre et ça se termine et puis point final, c'est un peu ennuyeux, je trouve. C'est mon avis. Alors nos choix, nos priorités et notre générosité reflètent notre respect pour Dieu et notre désir aussi de contribuer au bien commun. Que ce soit dans nos familles, que ce soit à l'Église, mais que ce soit pour l'humanité aussi. Certains disent que la vie est une école où nous apprenons et nous grandissons, c'est vrai. Et pourquoi pas ne pas voir cette vie comme une école où Dieu nous prépare à gérer les vraies richesses, les richesses de l'éternité. Tout ce que nous faisons ici-bas, notre manière de vivre, notre manière d'aimer, notre manière de servir, est une forme de préparation pour les responsabilités et les récompenses que Dieu nous réserve dans son royaume. Parce que oui, Dieu prépare, nous prépare. Je vais inviter l'équipe de louanges à monter. L'essentiel est de nous poser ces questions. Est-ce que j'utilise mes talents pour faire une différence positive ? Ah punaise, je sais que quelqu'un a besoin d'une voiture. Ben non, je vais garder la mienne bien au chaud, dans le garage. Je ne veux pas qu'on me l'abîme. Mon père, une fois, il a prêté la voiture. Elle n'est jamais revenue à la voiture. J'ai découvert une patience à mon père. Énorme. Suis-je reconnaissant pour ce que j'ai reçu ? Et est-ce que je le partage ? Mes choix reflètent-ils mon respect pour Dieu et mon désir de faire le bien autour de moi ? Moi, c'est à moi et rien qu'à moi. Mais Dieu nous fait des cadeaux. Est-ce qu'on les partage ? Est-ce qu'on les fait fructifier ? Est-ce qu'on les gère bien ? Non mais attends, Anne, je t'explique. Moi, je me lève tous les matins pour les travailler, pour gagner mon pain à la sueur de mon front. Donc tu ne vas pas me dire que oui, mais Dieu te donne la vie, t'accorde la vie, te donne des compétences pour que tu puisses travailler, gagner de l'argent. Mais tout appartient à Dieu. Et tout ce que Dieu nous donne, est-ce que j'ai envie de le partager ? Est-ce que je veux aussi par là montrer que je respecte Dieu, mais aussi que Dieu me récompensera à l'éternité ? Vivre selon les principes de Dieu, c'est vraiment pas une contrainte, mais c'est un privilège. Moi, je me dis, c'est quand même quelque chose d'énorme. Dieu est en train de confier à des personnes imparfaites des dons et des qualités, et il nous dit, ok, moi, je te fais confiance. Je te laisse gérer ça. Est-ce que toi, tu te fais confiance pour arriver à gérer ce que Dieu t'a donné ? Et ce matin, je te repose cette question. Cherches-tu un sens à ta vie ou le sens de la vie ? Tout à l'heure, il y en a qui disent « je veux vivre jusqu'à 80 ans et tout », mais la vie terrestre, c'est ça à côté de l'éternité. Et on ne peut pas s'empêcher de dire « allez, ok, c'est bon, il y a les fêtes et tout, je veux penser à la vie, à vivre et tout », mais il y a l'éternité à préparer aussi. L'Ecclésiaste nous rappelle une vérité simple mais essentielle. Sans Dieu, tout est vanité, tout est futile, course après le vent. Mais en lui, tout prend son sens, tout prend ce sens. Alors, en cette fin d'année, pourquoi ne pas chercher cette relation qui transcende le temps et donne une portée éternelle à notre existence ? Le sens de la vie n'est pas à chercher sous le soleil, mais à chercher auprès du Créateur. Et moi, je me crois dans un film, je vous assure. Je dis, punaise, Seigneur, je veux vraiment le réaliser. Ma vie sur terre Je ne sais pas combien de temps elle sera. Mais waouh, la vie avec toi. Et je veux y penser, ne pas l'oublier. Alors oui, on fait des projets. Oui, on se dit, ok, je vais vivre, je vais faire ça et tout. Mais pensons dans nos agendas, chaque fois que notre backer, j'ai l'éternité auprès du Seigneur. Et il faut que j'y pense. Amen. Seigneur Père, je veux vraiment te remercier, Père, pour ta parole. Et tu le sais, bien même parfaitement, Seigneur, j'ai partagé ce que tu as mis sur mon cœur, ce qui était là. Et je veux vraiment que tu nous aides à chaque jour à réaliser que bah déjà, tout nous vient de toi. Tu nous fais tellement de cadeaux, Seigneur. Aide-nous à voir chaque jour, Seigneur, ces merveilles, ces cadeaux. Père, que celui qui ne te connaît pas encore, celui qui hésite encore, qui puisse t'ouvrir la porte de son cœur et dire, ok, je veux tester, je veux voir. Seigneur mon Dieu, parce que tu es un Dieu bon, un Dieu merveilleux. Et tant qu'on n'a pas expérimenté, on ne peut pas comprendre. Seigneur, je te prie vraiment à nous aider à savoir bien gérer ce que tu nous accordes. Rien que même notre corps, notre famille. Seigneur, tout ce que tu nous donnes, les dons et les qualités, qu'on puisse les mettre à ton service. Seigneur, pour que vraiment un jour, quand on te verra, quand on sera avec toi, tu dis, viens, rentre, bon et fidèle serviteur. Je te donnerai de plus grandes choses encore. Vraiment encore merci pour qui tu es, pour tout ce que tu fais. À toi soit toute la gloire, mon Dieu. Amen.
Personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi sur toute la terre. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est
toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom.
Si ce matin le message, la louange, l'accueil, la présence de Dieu dans ce lieu a une résonance en vous, il y a deux possibilités d'aller un petit peu plus loin et peut-être de démarrer cette nouvelle élan, cette nouvelle saison avec des forces spirituelles. Vous avez un espace d'écoute et prière qui va s'ouvrir dans un instant. Nous sommes tellement heureux de pouvoir offrir aux personnes qui nous visitent à chaque semaine un espace où on peut vous écouter, prier pour vous s'il y a une résonance sur le sens de votre vie, sur l'existence. Vous êtes arrivé dans ce lieu en vous disant « Mais c'est quoi le sens de mon existence ?» Le Seigneur veut encore prolonger avec vous ces instants. Il y a toute une équipe qui se tiendra sur ma gauche, sur votre droite, avec des badges, écoute et prière. Vous pouvez vous poser avec eux, vous pouvez échanger votre sujet de prière et un temps de prière va s'installer et vous allez en ressortir édifié, béni. Si vous êtes là, vous découvrez l'évangile, le message du Christ, vous avez été invité par un collègue, par un membre de la famille, vous voulez aller plus loin, nous avons un espace vie d'église ou un espace aussi bienvenu, on sera heureux de vous offrir la Bible si vous n'en avez pas une et des personnes vous accueilleront à ce moment-là. Vous sortez de cette grande salle tout de suite à votre droite, vous avez un espace et des personnes qui vous attendent pour pouvoir échanger avec vous. On vous souhaite une semaine bénie. N'oubliez pas, écoutez prière, donc on vous demandera de libérer juste l'allée qui est ici, s'il vous plaît. Écoutez prière, une Bible vous est offerte à vous qui découvrez l'Évangile. Prenez contact avec nous, on sera heureux de pouvoir prolonger ce moment de foi avec vous. On vous bénit, vous qui êtes en ligne, qui nous visitez, la communauté de l'Épi, les amis, que Dieu vous bénisse. On vous souhaite une bonne fin d'année, que Dieu vous bénisse. Prenez bien soin de vous, faites attention sur les routes pendant ces prochains jours. Roulez bien, roulez sobrement et on se retrouve l'année prochaine. Que Dieu vous bénisse.